Jacques Ndioli, bonjour.
Bonjour.
Le Sénat n'a pas voté les projets de loi sur les régimes fiscal et douanier. Qu'est-ce qui cloche dans les textes de ces projets de loi qui vous fâchent?
Le Sénat avait d'énormes réserves sur ces textes. Nous avons soulevé un certain nombre de considérations d'ordre formel et de fond. Sur le plan de la forme, nous avons estimé que ces textes qui a été inscrit à l'ordre du jour d'une session extraordinaire ne respectait pas la Constitution à son article 116 qui dit que la session extraordinaire est convoquée sur un ordre du jour précis et déterminé. Cette disposition est confirmée par l'article 75 de notre règlement intérieur. En amenant un texte de manière plus ou moins cavalière le 3 février, donc la veille de la session, pour l'inscrire successivement sur notre ordre du jour, pour nous, cette manière d'opérer violait la Constitution et les règlements d'ordre intérieur. Sur le plan de fond, ces textes prenaient comme socle l'article 174 de la Constitution, alors que nous étions dans les dispositions de l'article 214 de la Constitution, qui prévoit comment on peut faire approuver les conventions et accords et comment on peut, n'est-ce pas, donner au président l'autorisation pour ratifier des traités qui, n'est-ce pas, portent des exemptions à matière fiscale par la loi. Donc, le socle constitutionnel de ces textes n'était pas correct et il apparaissait comme une manœuvre pour justifier a posteriori des choses qui ont été faites. Ce que nous ne refusons pas. Donc, nous estimons que notre pays a besoin de financements innovants, plus particulièrement dans les secteurs des infrastructures, parce que s'il n'y a pas d'infrastructures, il n'y a pas de développement. Mais nous ne croyons pas qu'il faille engager la République sur ces richesses fondamentales, à savoir le mine, les hydrocarbures, l'électricité, l'eau et les forêts, ces ressources qui ne nous appartiennent pas seulement, mais qui appartiennent à toutes les générations, par un texte qui devait être discuté à la hussarde, sans que nous puissions maîtriser les tenants et les aboutissants.
Donc si nous comprenons bien, vous estimez que cette loi vous présentez étouffée et prosaïque et l'affiche une opacité?
Totalement, totalement. Vous savez, la recherche des financements innovants, c'est une bonne chose. La République démocratique du Congo accuse un retard énorme en matière d'infrastructure et ces retards bloquent la venue des investissements frais. Et nous avons besoin des investissements en matière d'infrastructure, mais il faut les chercher dans la clarté, dans la transparence et dans la responsabilité. Comment pouvons-nous autoriser le Premier ministre par un décret à approuver ces genres de conventions qui portent sur plusieurs années sur des richesses épuisables? Ce n'est pas pour 3 milliards de dollars que nous pouvons, nous, de l'Équateur par exemple, abuser de nos forêts sans qu'on sache exactement quelles sont les infrastructures qui seront mises en place. L'absence de planification, de rationalisation, on ne peut pas nous amener un texte au site de conventions qui ne sont pas annexées. Donc, dans une telle opacité, nous ne pouvions pas accepter pour le bien du Congo. Ça nous apparaît comme une véritable opération de bardage de notre souveraineté économique, voire de notre devenir.
Oui, mais par rapport à l'article 29, vous estimez que cette loi est taillée sur mesure des contrats chinois, et parce que ces derniers sont même en panne à cause de cette loi exigée au Parlement?
Nous sommes tout à fait d'accord, et nous savons que c'est autour de l'article 29, ou autour de l'article 30, ou autour de l'article 14 que tout ce texte est articulé. On n'est pas d'emblée contre le contrat chinois, mais on doit mettre à notre disposition cette convention-là pour que nous puissions éventuellement demander au président de la République l'autoriser à approuver. Mais nous, on nous amène un texte général pour couvrir un acte particulier sans qu'on nous donne le texte. On nous demande de donner autorisation d'existence à un bureau qui travaille déjà sans qu'on sache comment ce bureau va fonctionner. L'article 14 donne à ce bureau le pouvoir de piloter, de coordination, de suivi de ces conventions. Mais ce bureau qui va piloter cet établissement public échappe donc à l'architecture générale des lois des finances publiques. Parce que ces conventions signées au nom de l'État porte sur les finances publiques. Donc, le moyen généré par ces établissements doivent aller dans le budget national, ce qui n'apparaît pas clairement dans l'articulation des textes. Donc, nous risquons d'avoir d'une part des conventions qui sont signées par le gouvernement, mais qui sont gérées, pilotées par des structures qui nous semblent plus ou moins opaques.
Oui, une dernière question. Cette loi vous vient de l'Assemblée nationale. Par vos critiques, devons-nous comprendre qu'à la chambre basse du Parlement, on l'a examinée avec un peu de légèreté?
Moi, je ne dis pas cela. Si c'est votre conclusion, vous assumez la responsabilité de votre conclusion. Mais nous ne pouvions pas, pour des matières aussi sensibles qui engagent notre avenir et l'avenir de toute la nation, des générations futures, des contrats qui portent pour plus de 3-5 milliards sur des matières premières, analyser un texte à la va-vite, donc les derniers jours, c'est-à-dire le jour de la clôture de la session parlementaire. Cette méthode de travail à la hussarde, cacher les précipitations, si l'Assemblée a trouvé qu'il fallait absolument ces textes, ils assument leurs responsabilités.
Ils vont assumer leurs responsabilités, vous l'avez dit. Jacques Ndioli, merci d'avoir répondu à nos questions.